Alors, commence aujourd'hui le cours de philosophie de l'art et de la technique. À l'origine, je donnais un cours sur l'art et le beau, et puis ce cours a été divisé d'une certaine façon. Je vous donnerai à la fin de l'année un module sur le beau, et je fais un cours exclusivement dédié à la question de l'art et de la technique. Alors, il faut savoir que c'est une discipline, la philosophie de la technique, qui n'est pas très enseignée encore. Si vous regardez à l'université, vous n'aurez pas dans les chaires, disons, traditionnelles, hein, de cours de philosophie de la technique. Vous n'avez pas dans certains lieux, par exemple connus comme l'IPC, une chaire spécialement dédiée à la philosophie de la technique. Dans les séminaires, on pourrait dire la ratio des séminaires, ne propose rien sur la technique à proprement parler. Et en même temps, nous sommes obligés de constater qu'il y a d'un côté, de manière extérieure, dans les informations, bah, toujours des choses sur la vie, sur des mutations technologiques. Et cela va jusqu'à même des craintes, si vous regardez des films d'anticipation, de science-fiction, vous voyez, la menace est essentiellement une menace technologique, que ce soit celle du Terminator ou alors des incubateurs du meilleur des mondes. Mais aussi, il faut constater que la grande philosophie a pris un tournant au XXe siècle, à tel point que les grands philosophes ont été aussi des philosophes de la technique. C'est notamment le cas de Martin Heidegger, dont on aura l'occasion de reparler. Mais Heidegger, lui, a même dit que nous étions à l'âge de la technique, mais qu'en plus, la technique était le point d'aboutissement de toute l'histoire de la philosophie occidentale. Vous voyez, chose très, très étonnante. Si on prend d'autres grands philosophes, par exemple Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, va aussi avoir des pages sur le travail et sur la technique comme question fondamentale. Et puis, vous avez d'autres philosophes moins connus, mais comme Günther Anders ou comme Hans Jonas, mais qui sont de plus en plus importants et appréciés, qui ont fait de leur âme une œuvre de philosophie de la technique. Alors, c'est pas apparu comme ça, il y en a un qui avait déjà vu ça, peut-être. Hegel avait déjà un peu vu ça. Mais celui qui avait vu ça, bien sûr, en premier lieu, c'est Marx. Marx qui a écrit, vous savez, jusqu'ici, les philosophes n'ont fait que contempler le monde, maintenant, ce qu'il faut, c'est le transformer. C'est aussi un penseur, justement, de la transformation du monde par la technique. Et quand Marx dit, vous savez, que les modes de production déterminent la société, eh bien, il est déjà l'un des plus grands philosophes de la technique. Voilà, je vous ai donné une série de noms, ce sont des noms qu'on réentendra et sur lesquels même on aura un cours à proprement parler dans la suite du semestre. Alors, première chose, à partir de là, vous voyez ce tournant qui fait que évoquer la technique n'est pas évoquer quelque chose d'optionnel désormais, semble-t-il. Faire de la philosophie de la technique, c'est peut-être faire la philosophie la plus fondamentale. Ça va même très loin, parce qu'un auteur que je vous citerai tout à l'heure, et avec qui je commencerai ce cours uniquement avec des auteurs vivants. Voilà. Mais l'un d'entre eux, un auteur américain originaire de Fribourg en Brisgau, donc pas de Fribourg en Suisse, mais de Fribourg en Allemagne, qui s'appelle Albert Borgmann, dit même qu'il faudrait faire une théologie de la technique et que la théologie de la technique est appelée à remplacer, enfin une théologie même de la technologie, est appelée à remplacer presque la théologie fondamentale. C'est incroyable. Au sens de théologie naturelle, si vous voulez, hein, de ce qui servirait de base à la théologie révélée. De base rationnelle, naturelle. Parce que nous sommes tellement dans un monde techniciste et technologique. Mais c'est même pas ça, c'est que le devenir anthropologique est désormais un devenir technologique. De plus en plus, le devenir de l'homme est pensé à travers la question de la technologie. Alors vous voyez, d'emblée, derrière ce mot technique, j'ai envisagé la question de la technologie, parce que ça renvoie pas tout de suite à la notion de technologie. J'utiliserai ce terme technologie non seulement pour désigner la technique contemporaine, certaines formes de techniques contemporaines qui sont liées aux sciences appliquées, mais aussi à quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire la technique en tant qu'elle devient complètement déterminante pour l'homme, en tant qu'elle est aussi un logos. Et dans technologie, ce n'est pas simplement la technique, c'est un logos, un discours, alors soit sur la technique, donc la technologie serait la philosophie de la technique, par exemple, la technologie c'est le discours sur la technique, comme la biologie et le discours sur le vivant. Mais moi je l'entendrais plutôt comme technologie, comme le moment où la technique devient le discours dominant. D'accord ? Donc, technologie, c'est le discours de la technique. C'est dans ce sens-là que j'entrerai. C'est ça, la grande mutation, on pourrait dire, entre la technique au sens classique et la technique au sens vraiment d'aujourd'hui, contemporain. Et bien sûr, la première chose que l'on fait face à la technologie, c'est d'avoir un rapport critique. Le rapport critique est le suivant, hein, c'est de dire par exemple qu'il y a des menaces de la technique. Menaces nucléaires, menaces à la vie privée. On dira que la technologie nous fait entrer dans une zone de risque extrême. Risques qui ne sont pas simplement des risques ordinaires, parce qu'il y a la possibilité peut-être de détruire la planète, comme on dit. Et donc l'enjeu, ça sera de lutter contre la technologie, de critiquer la technologie, ses excès, en raison des dangers qu'elle implique pour pouvoir sauver la planète. Mais quand vous faites ça, vous êtes dans la technologie. Pourquoi ? C'est ça le problème. Pourquoi est-ce que vous êtes déjà soumis à la technologie en parlant comme cela ? Il y a au moins deux raisons, enfin, je crois. Bon, déjà, parler de la planète, c'est parler comme un astronome. Si votre rapport à la Terre, c'est le rapport à un terroir, à une région, ça c'est la Terre. Mais si vous dites sauver la planète, c'est que vous avez déjà quitté la Terre. Donc déjà, ceux qui parlent de sauver la planète sont déjà dans un déracinement, sont déjà perdus dans l'espace intersidéral, si vous voulez. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, non, c'est pas ça, on sait très bien que cette planète, c'est notre planète, la planète bleue. Non, on l'a jamais vu bleu, hein, je vous rappelle. Enfin, bon, sauf des choux. Mais... Et maintenant, la planète bleue, parce que, oui, c'est vu de l'espace. Bon, c'est notre planète, d'accord, c'est notre planète. Donc c'est pas pareil, il faut... Oui, mais d'accord, admettons que ce ne soit pas un complet déracinement, qu'on est déjà... enfin, qu'on n'est pas déjà envoyé dans une capsule à travers l'espace quand on parle de sauver la planète, mais admettons que ce soit une conscience mondiale qui se déploie. D'où nous vient cette conscience globale, mondiale? Nous vient aussi de la technologie, à travers des paramètres qui sont mesurés par des appareils technologiques très sophistiqués. Qu'est-ce qui fait qu'on pense en termes de planète et qu'on pense même des problèmes? Vous voyez, l'augmentation de tel ou tel gaz, de l'augmentation du niveau... On est toujours une augmentation du niveau des eaux en référence à un appareillage technologique encore pour opérer cette critique. Vous voyez? Mais on va aller encore plus loin. Si je pense en termes de risques, il y a des risques. Et donc, comment est-ce qu'on va pallier ces risques? On va mesurer ces risques, enfin, mesurons le risque. Et on va essayer de remédier à ces risques, de diminuer le risque, par quoi? Par plus de contrôle. Précisément, c'est le propre de l'esprit technologique que de viser à contrôler, et à contrôler davantage. La technologie industrielle a produit de la pollution, etc. Nous allons compenser cela par des technologies plus douces en contrôlant davantage le niveau de pollution, les autres. Donc, encore recours à la technologie encore plus sophistiquée. On n'en sort pas. Je pense à j'ai une anecdote qui me vient d'un ami qui a joué... avec une de mes chanteuses préférées, il a joué avec elle en tant qu'actrice, chanteuse qui s'appelle Camille, je sais peut-être. Voilà, je vais mettre en musique. Et Camille, elle a joué avec un ami Nicolas Steub dans une pièce de théâtre d'Ibsen, et elle est assez écolo, je pense, après ce qu'il m'a dit, mais surtout elle a même un appareil pour mesurer les ondes. Elle ne veut pas rester à un endroit où il y a des ondes, vous voyez, il y a trop d'ondes. Les ondes qui passent partout, vous êtes près d'une antenne, près d'une tête, on ne sait pas ce que c'est peut-être un peu nocif, nuisible, cancérigène, que sais-je. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que, par crainte des ondes et pour se préserver des ondes, on se promène avec un appareil qui a un compteur, vous voyez, comme je disais tout le temps, il y a un compteur Geiger. À mesurer le taux de radioactivité, vous allez craigner la radioactivité, vous pouvez, et vous vous promenez dans des lieux, au lieu d'entrer dans un espace comme espace, vous pensez l'espace, vous le mentalisez en termes d'espace traversé par des ondes que vous devez mesurer avec un appareil technologique, pour essayer d'éviter les méfaits de la technologie. Vous comprenez le problème? Alors, quand vous êtes face à ça, vous pouvez dire, non, mais... En fait, on voit bien, il faut sortir complètement de la technologie. Il faut revenir à une vie, je dirais, plus sobre, plus naturelle. Revenons à la nature. Retournons à la nature. Mais là encore, le retour à la nature est un fantasme issu d'une société technologique. Parce que, je vous l'avais déjà dit, il me semble, enfin je ne sais pas, mais c'est seulement un homme qui est saturé d'artifices, d'artefacts, qui a envie de, qui rêve de naturisme. Aucune société, même la plus primitive, n'a rêvé de vivre complètement à poil. Aucune. Et dans les camps naturistes, il n'y a pas un seul étui pénien digne de ce nom, pas un seul des maquillages, ou même pas les magnifiques coiffes qu'on trouve aux pygmées, ou aux papous. Non, c'est celui qui rêve de retourner à la pure nature, voyez, nu, etc., c'est un type qui croule sous les gadgets. Et d'ailleurs, le fantasme du retour à la pure nature, c'est un fantasme qui est commandé par nos appareils. Vous avez des fonds d'écran, vous savez, qui vous présentent, vous avez une jolie petite grenouille verte sur le bord d'une feuille. Ou alors des paysages, vous savez, on vous livre votre Mac avec comme ça un paysage de rocheuse, et dans une sorte de crépuscule rose, orange, violet, vous dites, ah, la nature, ah, mais c'est un fond d'écran. C'est tout le temps, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui. À tel point une certaine forme d'écologisme apparaît non seulement en réaction face au technologisme, mais en continuité, parce qu'elle va projeter, cette forme d'écologisme, une nature immaculée, une nature purement harmonieuse, une nature qu'il faudrait préserver de l'homme, qui dès lors ne serait plus naturel. C'est déjà un gros problème. Dès que vous dites l'homme est un prédateur de la nature, c'est un écologiste, l'homme est un prédateur de la nature, donc c'est-à-dire que l'homme n'est pas de la nature, donc c'est-à-dire que l'homme est un être entièrement artificiel, donc vous croyez à l'anthropologie techniciste. Vous croyez que l'homme est un pur artifice. Donc pourquoi pas le transformer, pourquoi pas aller. Voilà, il fait partie de la nature, mais alors c'est un autre problème, vous voyez, c'est. Et vous dites, oh là là, l'homme a réduit la biodiversité. Ah, excusez-moi, mais l'âge de glace aussi a réduit la biodiversité. La nature, elle ne s'aime pas beaucoup, elle n'a pas beaucoup d'estime de soi. Alors. Parce que des destructions massives, il y en a eu dans la nature aussi. Ce n'est pas l'homme spécialement qui a détruit la faune. Et sous une forme particulière à l'homme, une forme où l'homme est responsable. Ça, c'est sûr. Là, c'est grave. C'est passible d'un jugement moral. Mais quant à la nature, est-ce que vous allez essayer de rendre les lions végétariens? Vous allez rêver une vie marine où les poissons ne se mangent pas, où les gros ne mangent pas les plus petits, etc. À la fin, ça devient la haine de la nature telle qu'elle est donnée, c'est-à-dire avec aussi sa violence. Violence amorale. Pas immorale, amorale, elles sont morales. Oui. Regardez le documentaire de la BBC, La planète bleue. Et vous voyez la baleine, une baleine, qui s'est occupée de son baleine. C'est dur pour une baleine d'avoir un baleine noir. Ça dure longtemps, c'est une gestation très longue. Toujours à côté de lui, elle s'en occupe un peu. Et là, vous voyez des orques qui viennent l'attaquer et qui lui bouffent son baleine. Donc il faudrait faire une association de protection de la baleine contre les orques. Pas seulement contre les hommes, vous voyez, je veux dire, c'est que bon. Donc, là encore, je peux avoir une posture écologique, mais qui est encore déterminée par le technologisme. Et que même l'idée de penser à un homme qui serait dans un pur rapport à la nature, ou une nature qui serait sans l'homme, vous voyez, enfin bon, je ne sais pas, mais. Tout ça est complètement fantasmatique. Ça montre qu'on s'est éloigné de la réalité. Je vous rappelle la phrase de Bernard Charbonneau dans Le Jardin de Babylone. Il dit cette chose extraordinaire. Il dit, mais le sentiment de la nature, et je me sens en harmonie, en résonance avec la nature. Ce sentiment-là, c'est un sentiment moderne. Vous voyez chez Rousseau, il faut attendre en fait la révolution industrielle. La vie devient tellement insupportable que quand on va à la nature, on peut fantasmer. Il dit, mais l'homme du paléolithique Le chasseur-cueilleur du paléolithique, il n'est pas en train de fantasmer la nature. La nature, pour lui, elle est terrible. Terrible, ça veut dire que soit il la combat, soit il l'adore. Vous voyez ? On combat l'ours, mais on a un culte de l'ours aussi. On est face à quelque chose, mais rien à voir avec, vous savez, ce sentiment bourgeois de la nature, qui est bourgeois, qui est vraiment lié à un certain développement de la technique, à un certain développement du monde industriel. Notre sentiment est nous, hein, quand on va dans la forêt, en Afrique, la forêt à côté de la bourguillon, c'est genre, il n'y a pas de grizzly. Hein. On a chassé les grizzlies. Après, vous allez dire, ah oui, il n'y a plus de grizzly, c'est pas bien. Il faut protéger les grizzlies. Il faut protéger les loups, il faut qu'il y ait des loups dans le... Oui, mais d'accord, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, il faut protéger le loup. Mais en même temps, et souvent, on protège le loup au nom du sentiment de la nature. Et alors, vous voyez, c'est très intéressant. À l'époque où on avait un rapport à la nature qui était un rapport beaucoup plus direct, ben, il y avait le grand méchant loup. Mais aujourd'hui, vous avez vu dans toutes les histoires, le petit chaperon rouge, c'est la salope, quoi. Et le loup est gentil. Bon, parce qu'on a éliminé les loups, bien sûr. Alors on dit c'est le petit chaperon rouge, elle est méchante, elle n'aime pas les animaux, pourquoi elle ne se laisse pas manger. Le chasseur, ah le chasseur, elle est horrible. Le chasseur, c'est pas bien. C'est pas... Non, mais c'est pour vous dire, hein, mais tout ça, c'est un fantasme qui vient d'un monde hyper industrialisé. Donc vous voyez, on est dans une situation de difficulté quand on cherche à critiquer la technique. Et je vais même vous prendre un truc qui est plus banal, la critique du transhumanisme. Ça, on a donné dans la critique du transhumanisme la tarte à la crème. En même temps, on dit, moi je suis spécialiste de la critique du transhumanisme, enfin bon, il faut voir de quoi on parle, parce que souvent on se dit, oui mais... c'est mal, c'est pas bien, c'est gentil. Mais en même temps, est-ce que vous voulez le bien des gens ou pas? Et si au nom de quoi vous allez dire, par exemple, si vous avez un enfant, vous avez une pilule ou la possibilité d'avoir un implant pour lui augmenter ses capacités intellectuelles. Toutes les mères catholiques, en famille chrétienne, elles attendent que ça, elles attendent que des trucs de pédagogie. Pourquoi pas? Vous avez une crème anti-rides efficace, anti-rides. Vous avez toujours la peau, le visage, vous voyez, de Mélissa, de la jeunesse de Katarina, comme ça. Ouais. Là, vous êtes, voilà, jusqu'à l'âge de 80 ans, 90 ans. Si on a la possibilité de, juste par un travail sur votre génome, alors pas le vôtre, bien sûr, vous avez, mais celui de votre enfant, il ne va pas mourir, vous êtes sûr, il ne va pas mourir. Ah, on va trafiquer son génome, il ne va pas mourir. Vous n'avez pas envie que votre enfant meure. Moi, mon petit chéri, j'avais de quoi faire l'opération. Enfin, transformer ton génome, mais non, tu vas mourir. Non, tu vas me crève. C'est bien. Il faut, hein, écoute, on est chrétien, il faut que tu crèves. Mais c'est pas facile, parce qu'à ce moment-là, vous allez dire, mais... Donc je critique des dangers, bien sûr, il peut y avoir des dérives extraordinaires. Et puis vous pouvez dire, ah oui, la technique, c'est la performance, c'est rare, on déteste les handicapés, on va rechercher. Non, mais il y a une technique qui se développe à cause du handicap. Il y a des handicapés, alors à cause de ces handicapés, on va faire par exemple des prothèses, et ces prothèses vont peut-être devenir plus puissantes que les prothèses, par exemple, que les membres naturels humains. Et à ce moment-là, on est déjà dans le transhumanisme, parce qu'on aime les handicapés. Dans un passage de Jeanne et les post-humains, qu'on n'a jamais monté, mais je parle des jeux supra-olympiques. qui est le moment où les Jeux para-olympiques deviennent plus intéressants que les Jeux olympiques. Parce qu'on a atteint le maximum de la performance humaine, mais avec les handicapés, on peut mettre des prothèses. Et là, on cesse de dépasser les limites parce qu'il y a toujours du progrès technologique. Donc un peu, c'est comme avec des écuries de Formule 1. Vous avez un sportif, vous voyez, mais il a derrière lui une écurie, vous voyez, qui lui fait, je ne sais pas, moi, des jambes à réaction, des trucs. Et là, vous voyez les sprints incroyables. Et l'idée, c'est que vraiment, ce qui va devenir spectaculaire à l'avenir, parce qu'on a atteint la limite de la capacité humaine, ce qui va être spectaculaire à l'avenir, ce seront les jeux que j'appelle supra-olympiques, une sorte de... Ouais, parce que là, on aura des choses impressionnantes. Je vous rappelle que c'est ce qui s'est passé à propos d'Oscar Pistorius, qui, avant de s'illustrer en tuant sa femme dans un accès de colère fort compréhensible, l'accès de colère à l'égard des épouses, enfin le fait de les tuer, bien sûr. Et donc, il tue sa femme, mais à l'origine, s'était présenté, vous vous souvenez, au comité olympique, pour pouvoir courir dans la catégorie normale, coureur, sprinter avec des jambes. Et on lui a dit, non, vous ne pouvez pas courir, parce qu'il faut que vous restiez en para-olympique. Au début, le comité olympique a dit ça, vous devez rester en para-olympique, parce que vous désavantagez les coureurs ordinaires. Donc il disait, vous, votre système cardiaque n'a pas à alimenter des jambes, puisque vous avez des prothèses de jambes, vous courez vite avec vos prothèses de jambes. Donc, en fait, les autres, voilà, ceux qui vont bien, sont en état d'infériorité. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment typique d'une possibilité de passage où, au nom de l'amour des handicapés et chercher les prothèses, alors on va évoluer, vous voyez, vers une humanité, donc augmenter, avec même certains qui vont rêver qu'on leur coupe les jambes. Ils vont se dire, merde, pourquoi est-ce que je suis né avec des bras ? J'ai pas de. On aurait pu, si j'avais pas eu de bras, au moins, moi j'aurais eu des tentacules hyper sophistiqués. J'aurais. Pourquoi ? Ou faire comme Angelina Jolie. Angelina Jolie, qui, parce qu'on lui a fait, vous savez, médecine sous les informations, on lui dit oui, vous avez 30% d'avoir contracté un cancer des seins, je ne sais pas, un truc, et elle se fait retirer les seins à l'avance. Et c'est vrai, c'est la question que vous pourriez vous poser. Pourquoi est-ce que vous avez fait étudier ? Vous pourriez avoir déjà des seins peau de technologie. Vous voyez ? Avec des batteries dedans, vous pouvez brancher directement votre portable. Non mais. Je pense à. Non, c'est vrai. En plus, le sac à main, c'est un élément important chez la femme. Et vous voyez, c'était directement intégré dans la poitrine. Vous auriez à la fois la forte poitrine, le sac à main à disposition. C'est des choses auxquelles il faut penser. C'est pour vous montrer que. Non, mais c'est juste pour vous montrer que la technologie aussi, et c'est un autre point, ce fait se développe au nom de la compassion aussi. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'elle est uniquement dans le culte de la performance, de la haine du faible, etc. Elle cherche aussi à guérir l'humanité de toutes les maladies, de la souffrance, et elle est remplie de compassion. À tel point que même, vous ne pouvez plus la critiquer au nom de la compassion. Au contraire, quand vous la critiquez, vous apparaissez comme cruel. Puisque vous allez dire à votre enfant, par exemple, « Ah non, c'est pas bien que tu sois tout le temps à jouer sur ta PlayStation 4. » Tout simple. On en revient. Donc la paix, c'est pas fait à ça encore. Parce que, et alors l'enfant, il pense que vous êtes horrible. Parce que oui, il va perdre toute reconnaissance avec tous ses potes qui ont la PlayStation 4. Vous voyez, lui, il joue jamais, il apparaît comme un plouc. vous êtes cruel. Et puis, si vous dites à votre enfant, comme j'ai dit au début, tu avais la possibilité d'être immortel, mais tu vas mourir. Ou encore, il y avait la possibilité de te fabriquer comme un surhomme, on aurait pu sélectionner ton génome davantage, on aurait pu un petit peu faire des manips pour que tu sois vraiment au top du top, vous voyez, dans les études et tout ça. Ce n'était pas des problèmes d'attention, d'implication au travail, comme Thibault. Et alors, forcément, c'est cruel. C'est cruel. Vous voyez, mais attendez. Jean, regardez, Jean est petit. On aurait dû travailler à ce qu'il ait une taille moyenne. Soit dans la norme. Imaginez que non, il faut qu'il y ait des petits. Alors lui, il dit l'empathie. Il dit, mais non, mais moi j'aurais aimé. Vous voyez. Mais donc c'est terrible parce qu'il faut aussi voir que si vous commencez à critiquer la technologie au nom de la compassion, vous devez reconnaître quand même, avant tout, qu'il y a un, que le dispositif qui est en place est un dispositif techno-compassionnel. Donc là encore, où va votre critique? Où va votre critique? Pierre-Augustin.
Oui. Dans la logique de ce que vous dites, il y a une différence qu'on appelle maintenant, enfin, c'est curieux, mais pour le cas des Tours de France, là, vous avez découvert des micro-moteurs dans les tubes des vélos, on parle de dopage technologique. Donc déjà, c'est possible, on intègre une notion humaine à la technologie, et c'est de se dire, certains se posent la question maintenant de savoir si le vélo doit rester dans les catégories donc, aujourd'hui, ou s'il va devenir un sport mécanique.
Donc, c'est une vraie question parce qu'en fait, on pourrait se dire que bon, le dopage, de toute façon, il est toujours technologique, même si ça se fait par de la chimie. Un dopage est toujours technologique. Mais surtout, ce qu'on peut se dire, c'est que si au bout d'un moment, on en le Tour de France, vous voyez, on en a marre de voir des gens pédaler, quoi, depuis des années. D'autant qu'à une époque, c'était fort, vous voyez, quand on était encore dans l'imaginaire du cheval, dans l'imaginaire, vous voyez, mais maintenant, où on ne cesse de faire des dispositifs pour de toujours plus vite, peut-être qu'il faudrait modifier la notion de l'époque et en faire une sorte de Formule 1 limitée, c'est-à-dire avec des. Effectivement, on fait des motos avec des. Oui, faire des motos en fait. Voilà, des vélos avec des micro-moteurs. Pourquoi pas? On peut imaginer ça. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est vous montrer la difficulté qu'il y a à entrer dans une critique de la technique. Et une critique de la technologie plus spécifiquement ici. Et c'est l'observation que fait Albert Borgmann, qui est un auteur vivant, il doit avoir 83 ou 84 ans. Il a enseigné à l'Université du Montana et dans un livre qui s'intitule Power Failure, comment est-ce que vous allez traduire ça? Parce que Power Failure, ça veut dire aussi la panne de courant en fait. Hein. Bon, voilà. Mais c'est la faille à l'intérieur du pouvoir. Voilà ce qu'il écrit. La technologie est si profondément enracinée dans notre monde et dans nos manières, in our world and in our ways. Traduit ways par manière, voie, manière de faire. Que tout effort critique est généralement dévié de la technologie comme telle à des problèmes intérieurs à la technologie. Et ce qui est pire, ces problèmes internes en viennent à être critiqués à partir de critères technologiques, à partir de standards technologiques. Voilà ce qu'il dit. Donc, souvent, nous critiquons la technologie à partir des critères de la technologie. Nous ne pouvons pas y échapper comme cela. Et pour des raisons très simples, c'est d'une part que nous sommes entièrement conditionnés par le monde. Je dis conditionnés, je ne dis pas déterminés. Conditionnés, enfin, conditionnés. Et que nous sommes conditionnés parce que l'homme est un être technique, un être capable de technique, et que la technique est une dimension essentielle de son être. Donc, comment faire, si vous voulez, pour avoir une vraie pensée de la technique qui peut amener à une vraie critique de la technologie aujourd'hui? C'est ça notre question. Notre question, c'est qu'il faut vraiment penser la technique en profondeur et de manière à ce qu'on puisse échapper au technological standards, comme dit Albert Portman, hein, aux critères technologiques, dans notre manière même de critiquer la technologie, et donc de, on pourrait dire, lui donner les pleins pouvoirs. Puisque vous allez dire, je veux dire, hein, quel est, je vais résumer un peu le mode technologique de critiquer la technologie. Ouh là là, il y a des dangers dans la technologie. Dans le monde technologique, il va falloir plus de contrôle sur ces objets-là. D'accord ? Plus de contrôle. Et c'est de la technologie encore. Vous voyez, des technologies sur la technologie. Il va falloir simplement en faire bon usage. Deuxième possibilité. Hein. Pas la logique du contrôle, mais la logique morale. C'est le discours moral, celui de l'Église, souvent. Enfin, qui est de l'Église. Des ecclésiastiques. Vous avez un objet technologique, il suffit d'en faire bon usage. En fait, bon usage. Mais là encore, vous êtes dans l'idée que votre rapport à l'objet qui est devant vous est un rapport complètement instrumental. Que l'objet technologique qui est devant vous est un peu comme un marteau, si vous voulez. Hein. On n'a pas changé depuis le marteau. Le marteau, vous pouvez vous en servir pour planter des clous, c'est bien. Ou alors, vous pouvez vous en servir pour casser la tête de votre voisin, c'est moins bien. Vous voyez, il y a un bon usage du marteau, vous n'allez pas éliminer le marteau. D'accord, on ne va pas éliminer le marteau, ce serait vraiment une grande perte pour l'humanité. Mais est-ce que les appareils technologiques sont encore de cet ordre-là? Et est-ce que vous n'êtes pas encore dans un fantasme où vous pensez vous-même la morale comme manipulation bonne du réel? Donc encore sur un modèle, on pourrait presque dire, technologique. Et là, on essaye d'approcher un problème majeur. Alors, ce que je voudrais vous montrer dans ce cours d'introduction, après vous avoir, vous voyez, l'introduction de cette introduction, après vous avoir montré qu'il n'était pas facile de critiquer la technologie et qu'il était d'une certaine façon urgent à cause de ça de penser la technologie, ce que je voudrais vous montrer d'emblée, ça sera un aperçu très rapide de ce qui sera d'une certaine façon la thèse constante de ce cours. Quelle va être la thèse de ce cours? Que ce que l'on appelle technique n'est pas un simple à côté de la vie humaine. Qu'il n'y a pas, par exemple, et selon la division des opérations humaines, le savoir, l'agir et le faire. Vous connaissez, hein, le savoir, c'est la science, la sagesse, hein, on connaît pour connaître, l'agir, où l'on agit pour devenir meilleur soi-même, la finalité, hein, c'est le domaine de la morale, de la prudence, de l'éthique, comme vous voulez. Et puis de l'autre côté, le faire, où c'est une pratique qui cherche à transformer la matière, c'est tout ce qui est domaine de l'art, et donc de la technique. Eh bien, comprendre que ces trois domaines ne sont pas séparés, c'est ça l'enjeu. Et que notre mode de faire agit sur notre mode, conditionne notre mode d'agir et conditionne notre manière de voir. D'ailleurs, je reviendrai sur cette expression, manière de voir. Une manière de voir, ça veut dire qu'on voit avec la main. Une manière, ça vient de la main. Manière de voir, ça veut dire que la manière dont j'emploie ma main conditionne mon regard. Vous voyez ? Ou si vous préférez, la technique n'est pas un simple ensemble d'outils, de machines qui seraient là posées dans le monde, à côté du monde, au milieu du monde. La technique marque notre manière de voir le monde. Elle conditionne notre perception du réel. Voir le monde à l'époque néolithique, c'est le voir différemment qu'à l'époque paléolithique. Et voir le monde à l'époque de l'ingénierie, c'est-à-dire à une époque où on sort du modèle premier de l'agriculture pour aller vers le modèle des sciences appliquées, eh bien c'est voir le monde aussi autrement qu'on le voyait à l'époque où c'était le modèle agricole qui devenait. Voilà. En quelques mots, ce qu'est la thèse, on pourrait dire, centrale, ou plutôt le leitmotiv, la base continue de ce cours, qu'on va déployer après en voyant différents auteurs, en la redéployant à travers différents aspects.